Chapitre 53. 3 octobre 1998, 6h22. Marc arpenta le parking pendant que Malvina, assise sur le fauteuil passager du camion, lisait les 5 pages arrachées. Il avait emporté dans son sac des gâteaux secs et une brique de jus d'orange. Il dévora les biscuits, but la moitié du jus de fruits. Un semi-remorque vint se garer sur le parking, à plus de 50 mètres de leur Citroën. Un type sortit, une bouteille thermos à la main. Du café, sans doute. Marc hésita à lui en demander. Malvina sauta hors du Citroën, les feuilles à la main.
« T'es content, j'ai lu. C'est ce que tu voulais ? Me foutre les boules avec l'accident de ton papy ? Pas de bol pour lui, c'est sûr. Mais à part ça, tu veux en venir où ? J'avais 8 ans à l'époque, mais tu te doutes que j'étais à peu près au courant. » C'est quoi ton problème? Si c'est pour me prévenir que ton camion orange et rouge est un corbillard, c'était pas la peine. Je comptais pas dormir dedans cette nuit.
Marc ne releva pas. Peut-être commençait-il à s'habituer à l'humour morbide de Malvina. Sa seule façon de communiquer, au fond. Sans doute même pour elle une sorte de thérapie. Peut-être que le traitement par électrochoc fonctionnait pour lui aussi, en contraste avec toutes ces années de silence, de non-dit et de tabou. Marc se hissa à son tour dans le Citroën, fouilla dans son sac, en sortit le classeur qui contenait son cours de droit constitutionnel européen. « Tiens, lis ça maintenant. »«
Quoi ça? Tout ?»«
Mais non, pas tout. Juste le cours du 12 février, celui sur la Turquie. » Malvina soupira.
Oh, « File-moi du jus d'orange et à bouffer avant. »
Marc lui tendit les restes de son petit déjeuner. Malvina avala tout avec avidité. Si elle était anorexique, elle le cachait bien.
Bon, c'est quoi cette connerie ?
Elle attrapa le classeur, l'ouvrit à la page souhaitée par Marc et fit la grimace.
Ah, désolée, j'arrive pas à lire tes pattes de mouche. Tu dois être une sacrée truffe à la fac, surtout à côté de Lily. Oh, je suis sûre qu'elle cartonne, elle.
Marc encaissa. De l'humour aux vertus thérapeutiques. Et toi, t'as quoi comme diplôme ?
Le record du monde de profs particuliers. 37 en 15 ans. Le dernier n'a pas tenu 2 jours.
Pas la peine de te foutre de ma gueule, alors. Malvina se mit à rire. Elle jeta par terre le papier de biscuit et la brique vide.
Ouais, mais moi, c'est parce que je suis d'un genre trop spécial pour les profs. Je rentre pas dans leur tiroir, tu vois ?
Elle releva les yeux.
Oh putain, je comprends rien à tes notes.
Contente-toi de lire les dates. Tu arrives à lire les dates, hein ? T'es pas trop spécial pour ça ?
Oh, tu me gaves.
Lis.
Fais pas chier.
Elle lut quand même.
29 octobre 1923. La Turquie d'Atatürk devient une république. 17 septembre 1961, le premier ministre Adnan Menderes est exécuté pour violation de la constitution. Bon, tu veux en venir où, là ?
Continue.
Oh, putain ! 12 septembre 1980, coup d'État et retour des militaires au pouvoir. 7 novembre 1982... Ouais, référendum national sur le retour à la démocratie.
Ok, coupa Marc. Maintenant, on prend les feuilles du journal Le Grand-Duc, les toutes premières lignes.
Oh, mais tu fais vraiment chier, hein ?
Malvina jeta les feuilles par terre.
Bon, on se casse ? Si tu veux arriver dans le Jura avec ton tank avant la Toussaint...
Marc se pencha calmement, ramassa les pages et commença à lire. Ce dimanche-là, le 7 novembre 1982, j'avais passé le week-end à Antalya sur la Méditerranée et la rivière turque... 300 jours de soleil par an, chez un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur turc, qui me recevait dans sa résidence secondaire. Bon, je passe un peu la suite. De guerre lasse, le haut fonctionnaire en question avait fini par m'inviter, un week-end où il recevait chez lui tout le gratin de la sécurité nationale turque. Pour une fois, Nazim n'était pas là, et Hila avait insisté pour qu'il rentre. Elle était tombée malade, je crois me souvenir. Ça ne m'arrangeait pas, au contraire... J'avais galéré tout le week-end sans interprète à expliquer ce que je voulais. Surtout que les autres étaient là pour se la couler douce au soleil avec leurs femmes. Pas convaincu du tout du caractère prioritaire de mes demandes. Moi non plus d'ailleurs, de moins en moins. Malvina tortura nerveusement sa bague marron entre ses doigts et détourna le regard vers le camion garé au bout du parking.
« Et maintenant ?»
cria-t-elle assez fort pour que le routier entende.
On a marre ton bahut de merde et on fait des gaufres pour les gros culs ?
Le chauffeur à la bouteille thermos avait entendu. Il regarda Malvina comme une bête curieuse, puis haussa les épaules et se retourna, pas plus énervé que si un roquet lui avait aboyé au mollet. Marc fixait Malvina. Une fois de plus, la colère de la fille sonnait faux. une pitoyable manœuvre de diversion. Je vais te mettre les points sur les i, Malvina. C'est juste une petite question d'agenda qui cloche. Crédule Grand-Duc, dans son cahier, raconte qu'il est reçu par tout le ministère de l'Intérieur turc, qu'ils font la fiesta au bord de la mer avec femmes et enfants, le dimanche 7 novembre 1982.
Oh, merci, je sais lire.
Sauf que précisément, le 7 novembre 1982, c'est le jour du référendum en Turquie, le retour à la démocratie, la fin des militaires, une journée historique. Tu crois pas que ce week-end-là, les hauts fonctionnaires turcs, ils avaient autre chose à foutre ? Malvina haussa les épaules.
Oh, Grand-Duc s'est planté de date. Un point, c'est tout. 15 ans après, hein, tu sais...
Mon cul, oui. Le routier au thermos s'était adossé à l'aile de son camion et observait la scène comme si Marc et Malvina étaient des héros de sitcom.
Tu veux un sonotone ?
Hurla Malvina au chauffeur. L'autre ne tiqua pas, blasé. Marc continua. Je vais te dire la vérité, Malvina. Grand-Duc n'était pas en Turquie le 7 novembre 1982. En tout cas, pas dans une villa à Antalya. Pourquoi a-t-il menti alors ? Pourquoi utiliser un alibi aussi foireux ? Parce qu'il était ailleurs, forcément. Ailleurs, d'accord, mais où ? Où pouvait-il bien se cacher ce week-end du 7 novembre 1982 ? Dans quel lieu où il n'aurait pas dû être ? Pourquoi préciser que Nazim était en France et lui en Turquie, si ce n'est pas pour laisser planer les soupçons sur son associé ?
Mais tu délires là, hein ? Décidément, t'es vraiment plus taré que moi.
Marc attrapa Malvina par le haut du pull. Elle ne se défendit pas. Elle n'avait plus de flingue dans sa poche, pas même un galet. Et si le gentil Grand-Duc, le détective patient, le minutieux, l'honnête, crédule la bascule, l'ami des vitrales, l'amoureux transi de ma grand-mère, le narrateur désabusé de toute cette enquête, le fidèle, le pur, le pauvre crédule Grand-Duc, et si ce type n'était qu'un salaud de mercenaire, une ordure à qui ton grand-père avait demandé de supprimer mes grands-parents pour récupérer Lily ? Une ordure qui aurait dit oui. Marc déformait de ses doigts convulsés le pull mauve de Malvina. Elle ne disait toujours rien. Sur le parking, le routier au thermos s'était remonté dans son camion. Un grésillement d'autoradio parvenait jusqu'à eux. Marc continua au bord des larmes. Pas de danger qu'il le précise, Grand-Duc, ce détail dans son cahier. Même si tout le reste est peut-être vrai, peut-être même son attachement à sa famille d'adoption, à ma grand-mère. Classique, le bourreau qui s'attache à la victime qu'il n'a pas réussi à achever, le remords qui tourne au fantasme. Pathétique, oui. Dire qu'on a invité des années ce type dans notre maison, l'assassin de mon grand-père. Dire que ma grand-mère a même... Marc lâcha brusquement Malvina, fit quelques pas sur le parking, ramassa machinalement le paquet de biscuits et la brique de jus d'orange par terre. Il marcha vers la poubelle la plus proche, à 10 mètres. « Tu peux me raconter ce que tu veux. Je sais que ça s'est passé comme ça, c'est Grand-Duc. Quand on a compris ça, toute la lecture de son cahier de faux cul devient évidente. Un mercenaire, un dur, il avait annoncé la couleur. » Marc lança les détritus dans la poubelle.
« C'est mon grand-père. »
fit la voix de Malvina. Jamais Marc n'avait entendu Malvina s'exprimer d'une voix aussi douce. Il se retourna.
« C'est mon grand-père. Lui seul. Après son premier infarctus. Il ne croyait pas à la longue enquête de ma grand-mère. Il était du genre expéditif. Lui aussi a contacté Grand-Duc un peu après ma grand-mère. Et il l'a payé très cher. À peu près le prix d'un pavillon sur la butte aux Cailles, pour te donner une idée. » Ça devait avoir l'air d'un accident. Selon les avocats, si les grands-parents Vitral mouraient, Weber, le juge pour enfants, serait emmerdé. Mais nous avions toutes les chances de récupérer la petite. Grand-Duc n'était pas un enfant de cœur. Mon grand-père s'était renseigné. Ce week-end-là, en novembre 1982, il a fait un aller-retour France-Turquie. Personne n'en a jamais rien su. Le reste n'était pas très difficile pour lui.
Comment l'as-tu appris ?
Moi, j'avais 8 ans. J'ai pas tout compris à l'époque, mais j'espionnais déjà tout le monde. La vilaine petite souris qui a fait des petits trous partout et qui s'y cache. Ma grand-mère, elle aussi, n'a compris que trop tard, après la mort de Pierre Vitral. Je ne te raconte pas le bordel que ça a dû être dans sa pauvre petite conscience. Un crime ? Comment annoncer ça pendant sa prière au Père, au Fils et au Saint-Esprit ? Mon grand-père a fait sa seconde crise cardiaque juste après. Son plan avait foiré. Ma grand-mère a pris cela pour de la justice divine. et elle a fermé sa gueule.
Et toi, Malvina, tu en penses quoi ? Malvina hésita une seconde. Elle joua nerveusement avec la semelle de sa ballerine sur le marchepied d'aluminium, puis répondit.
Bah, comme mon grand-père avait raison, qu'est-ce que tu crois ? Ça aurait pu marcher. Disparu, les grands-parents vitra l'oust. Lise Rose, ma petite sœur que vous m'aviez volée, retrouvait sa chambre. Et toi, on te collait chez les orphelins. Bien fait. Voilà ce que j'en pensais.
Et maintenant ? Aujourd'hui, t'en penses quoi ? Malvina, cette fois, n'hésita pas.
Pareil.
Ils reprirent la route. Malvina avait changé la cassette dans l'autoradio. Elle avait choisi au hasard, pour la couleur bleu ciel de la pochette, Brothers in Arms de Dire Straits. La voix de Mark Knopfler alternait avec les délires électriques de sa guitare. Ce fut elle qui parla la première.
Ça n'empêche pas que Grand-Duc était un sale con. Il n'a jamais pu me saquer, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il avait deviné que j'étais au courant.
Mark écoutait distraitement. Il éprouvait un sentiment poisseux de trahison. Jusqu'à quel point Grand-Duc avait-il falsifié la vérité dans son journal ?
Et il y a 4 jours, il a voulu faire chanter ma grand-mère. Avec son histoire à la con de rebondissement de dernière minute. 150 000 francs, le triple lorsqu'il apporterait les preuves. Je ne sais pas qui l'a buté, mais il a débarrassé la terre d'un putain de cafard.
Les doigts de Mark jouaient sur le volant au rythme des notes du saxophone de « Your Latest Streak ». Il repensait aux derniers mots de Malvina. « Je ne sais pas qui l'a buté ». Il se remémorait la scène de la découverte du corps de Grand-Duc, la balle dans le cœur, la tête dans la cheminée, selon un rituel macabre. Le visage du cadavre couvert de cloques et de cendres.
« Sans parler du test ADN »,
continuait Malvina.
« On sait tous les deux que c'est Lise Rose qui est vivante, alors ce test prouve bien que Grand-Duc est véreux jusqu'à l'os. »
Un doute terrible naissait dans l'esprit embrouillé de Mark. Une minuscule étincelle attisée par un vent violent qui se propageait dans son cerveau comme un feu de savane.
« En plus, c'était un gros nul, Grand-Duc. Payé 1 million et même pas foutu de buter 2 vies en train de dormir. »
Les mains de Mark se crispèrent sur le cuir fatigué du volant. La guitare de Mark Knopfler lâcha un dernier riff. Juste de l'humour. Thérapeutique.